le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, bienvenue au magazine des Nations Unies, le mandat de la MONUSCO prolongé au 31 mars 2015. La nouvelle est tombée à l'issue du vote de la résolution 2147 au Conseil de sécurité le vendredi 28 mars dernier. Cependant, la mission onusienne doit s'atteler à élaborer une stratégie de retrait progressif de la RDC. Selon les termes de Martin Kobler, ce sera notre actualité de la semaine. Comment comprendre l'incidence du processus de redéploiement d'une partie du personnel de la MONUSCO dans la vie quotidienne des Gomatraciens? Quelles sont les conséquences socio-économiques de ce redéploiement dans la ville de Goma? Les réponses dans notre nouvelle en province. Enfin, l'invité, Jean-Pierre Elali Coco, vous recevez.
Nous recevons M. Abdoul Aziz Etchouye. Il est directeur adjoint au bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Vous savez, Mila, que le bureau conjoint publie désormais chaque mois un rapport sur les violations des droits de l'homme dans ces pays. Le mois de février n'a pas dérogé à la règle. Alors, avec notre invité, nous allons analyser les résultats de ces rapports et comprendre son incidence dans la lutte contre les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo.
Merci Jean-Pierre. Pierre.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Vendredi 28 mars dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé jusqu'au 31 mars 2015 le mandat de la MONUSCO. Ce nouveau mandat permettra à la MONUSCO de préparer une stratégie de retrait progressif clairement définie. Martin Kobler, chef de la MONUSCO, l'a déclaré mercredi dernier à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Retrouvez ses propos ainsi que les grandes lignes de cette résolution dans ce condensé de Jean-Pierre Elali Coco.
Dans ce texte, le Conseil de sécurité autorise la MONUSCO par l'intermédiaire de la brigade d'intervention, agissant seule ou avec les FARDC, à mener des offensives ciblées et robustes en vue d'empêcher l'expansion de tous les groupes armés dans l'est du pays, de les neutraliser, de les désarmer de façon à contribuer à réduire leurs menaces. Les 15 autorisent aussi, pour le respect de l'embargo sur les armes, à observer avec le drone le mouvement du personnel militaire et d'armes à l'est du pays. Un soutien dont s'est félicité l'ambassadeur itinérant de la RDC, Séraphin Gouège. D'après ces derniers, son gouvernement met sur pied une force de réaction rapide destinée, le moment venu, à prendre la relève de la brigade d'intervention de l'ONU. Séraphin Gouège.
La montée en puissance de cette force de réaction rapide est très avancée. Les brigades devant la constituer sont déjà formées et poursuivent actuellement leurs entraînements dans les différentes spécialités. Parallèlement à cet effort, des progrès notables ont indéniablement été accomplis dans la lutte contre les forces négatives, la protection des populations civiles et le renforcement des capacités du gouvernement de la RDC à sécuriser cette population. S'agissant particulièrement de la lutte contre les forces négatives, nous avons donné la priorité à la protection des populations congolaises et à la sauvegarde tant de l'intégrité territoriale qu'à la souveraineté de notre pays.
Il faut noter également que par cette résolution, le Conseil de sécurité demande à la MONUSCO de préparer une stratégie de retrait clairement définie, y compris pour la brigade d'intervention. Martin Kobler, chef de la MONUSCO, précise.
La MONUSCO va partir du pays graduellement, ça durera un peu, mais c'est très important d'avoir une vision, c'est très important d'avoir la stratégie, c'est très important de ne créez pas l'impression que nous sommes ici pour l'éternité. C'est le but, l'objectif de cette résolution. Le futur des Nations Unies en RDC, c'est l'équipe pays. C'est pas la MONUSCO. La MONUSCO doit partir, mais on va discuter avec le gouvernement, on va discuter avec la société civile, on va discuter avec nos partenaires ici. Mais la première tâche, c'est de créer la stabilité et la sécurité, de développer la consolidation de l'autorité de l'État, d'avoir l'État de droit, d'avoir la réforme du secteur de sécurité, d'avoir en place la force de réaction rapide qui va remplacer la brigade d'intervention. Ce sont des étapes, ça dure de temps.
Ainsi, les reconfigurations futures de la MONUSCO et de son mandat seront désormais fonction de l'évolution de la situation sur le terrain et aussi dans les contextes de la mise en œuvre par le gouvernement congolais et tous les autres signataires de l'accord cadre des progrès vers la réalisation des objectifs suivants, conformément aux trois priorités, à savoir la protection des civils, la stabilisation et l'appui à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba.
Il faut noter également que par cette résolution, le Conseil de sécurité demande aussi à la MONUSCO de préparer une stratégie de retrait pour la brigade d'intervention. Comment a réagi la population congolaise à ce sujet? Suivons ces réactions de la population recueillie à Mbandaka par Paul Richard Malengela.
Le gouvernement doit faire un effort dans une année d'être en mesure de stabiliser le pays dans toutes les attaques qui peuvent surgir. Le gouvernement ne doit pas être à tout moment démissionnaire.
La RDC en elle seule ne saura pas vraiment prendre toutes les mesures nécessaires par rapport à la sauvegarde de cette paix. Il faut l'accompagnement de la MONUSCO qui met à la disposition de notre pays son armée, son matériel et ses experts pour que cette paix-là soit durable et dans une année, la RDC puisse récupérer toute la gestion et que ça serait une séparation à l'amiable avec la MONUSCO.
C'est comme si l'ONU a deux poids, deux mesures. L'ONU doit imposer la paix partout. Alors, le président qui n'aurait pas à se soumettre au niveau des accords d'Addis Abeba, mais on doit le frapper parce qu'il y a des principes des accords d'Addis Abeba respectés en même temps par la RDC, par l'Ouganda, les Rwanda, les pays de Grand Lac. Mais il faudrait que cet accord soit respecté par tous ces pays. Mais il n'y a que le Congo qui respecte. Mais pourquoi pas les deux pays?
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La Banque mondiale a organisé la semaine dernière à Kinshasa du 1er au 3 avril un atelier sur le thème « Voie vers la croissance verte en Afrique ». Un responsable des infrastructures durables de l'UNOPS pour la région Afrique, Michel Erigui, a participé à cet atelier où son exposé a porté sur les enjeux de la durabilité des infrastructures en Afrique. En RDC, l'UNOPS est impliqué notamment dans le projet PARSA, projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole. Le chef de ce projet dans la province de l'Équateur, Moussa Diagana, est notre invité dans cette rubrique. Il s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Moussa Diagana, bonjour.
Bonjour.
L'INOPS a préparé une conférence atelier de la Banque mondiale sur la croissance verte en Afrique, un atelier au cours duquel l'INOPS a exposé ses activités dans le projet PARSA. Et vous êtes le chef de ce projet pour la province de l'Équateur. En quoi consiste le projet PARSA?
Le projet PARSA est un projet financé par la Banque mondiale, c'est un projet du gouvernement dans lequel l'UNOPS joue le rôle de maître d'ouvrage délégué. C'est un projet d'abord qui vise à améliorer la production agricole. Qui dit production agricole dit écoulement de la production. Et le grand problème de l'Équateur, ce sont les routes de desserte agricole. Donc on est chargé de réhabiliter 2500 km de route, de construire des marchés et des entrepôts. Et nous intervenons dans trois districts, le nord Ubangi, le sud Ubangi et la Mongala.
Oui, la Banque mondiale finance ce projet à quelle hauteur?
120 millions de dollars, dont 54 millions pour l'UNOPS.
Quelle est concrètement la part de l'UNOPS dans la conception et l'exécution de ce projet?
En termes de conception, l'UNOPS est chargé de la construction des infrastructures. 2500 km de route, comme j'ai dit, c'est de la réhabilitation que nous faisons. Et ces routes sont situées dans des zones agricoles. Nous faisons les études techniques et les études d'impact. Et ensuite, nous passons à la réalisation proprement dite. Et nous faisons également l'entretien des routes. Idem pour les marchés. Nous faisons les études. Nous faisons les études d'impact et les études techniques. La conception des marchés et les travaux de réalisation et de maintenance des marchés à travers les comités de gestion de ces marchés et de ces entrepôts.
Oui, vous êtes au niveau maintenant de la réalisation des travaux.
Nous sommes en ce moment dans les deux. C'est un projet de 5 ans. Dans un premier temps, il y a tout l'aspect études qui nous a pris pratiquement 1 an. Ensuite, nous passons à la réalisation. Je dois dire une chose importante. Dans la mesure où ce sont des routes de desserte agricole, souvent ces routes ont un impact sur les actifs agricoles ou les habitations des villageois, parce que ce ne sont pas des routes qui existent en fait. Ce sont des sentiers, la plupart du temps. Les marchés n'existent pas, ce sont les petits marchés en hutte qui sont dispersés dans un site du village. Les entrepôts n'existent pas non plus. Donc la grande problématique, c'est comment faire du durable à travers ce que nous faisons. L'autre aspect qui est extrêmement important, c'est que nous sommes dans une zone où il n'y a pas une tradition de réhabilitation de routes par la méthode à haute intensité de main-d'œuvre. C'est-à-dire que ce sont les populations qui vont construire la route là où c'est possible. Il y a un aspect de mécanisation, mais la majorité des travaux, c'est à travers la construction. Alors ce que nous faisons de la formation. On forme des chefs d'équipe au sein de la population et des chefs de chantier pour encadrer les travaux sur le terrain avec la main-d'œuvre locale. Donc il y a un impact tout de suite en termes de revenus et en termes d'emploi au niveau local.
Oui, pour les routes, l'objectif c'est de réhabiliter, de construire 2500 km à l'heure qu'il est. Vous en avez déjà construit ou réhabilité combien ?
À l'heure qu'il est, nous sommes à peu près à 600 km de routes qui sont déjà terminées totalement. Et plus de 1000 km qui sont en cours de construction. Pour ce qui concerne les marchés, nous avons terminé un marché totalement. Les trois autres marchés sont à peu près à 50% et vont se terminer cette année. Pour les entrepôts, il y en a 16. Deux entrepôts sont terminés. Les 14 entrepôts restants sont en cours de construction à des taux différents. Certains sont à 80%, d'autres à 50%. Ce qui est certain, c'est que aussi bien les marchés que les entrepôts vont se terminer dans l'année 2014, dans la mesure où le projet lui-même finit en 2015.
En dehors des routes proprement dites, il y a aussi des ponts.
Oui, absolument. Le problème de l'Équateur, effectivement, c'est que c'est la multiplicité des cours d'eau. Donc la grande difficulté de travaux, c'est d'abord d'accéder dans les sites, parce qu'il y a énormément de rivières. Donc nous avons à peu près au kilomètre, ou tous les deux kilomètres, il faut construire un ouvrage. Ce n'est pas forcément des ponts, quelquefois c'est des dalots. Donc ça également, en même temps que les ponts, on a à peu près 92 ponts qui sont terminés. Le reste est en cours de construction à des taux différents. Mais comme je l'ai dit, il y a énormément de ponts et souvent des ponts qui vont jusqu'à 50 mètres de longueur, ce qui fait que ça complexifie les travaux de construction des ponts, surtout que la grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est l'approvisionnement en matériaux, le ciment, le fer à bâton, le tout doit provenir de Kinshasa et souvent par bateau, ce qui fait que quand ça arrive à Lissala ou quand ça arrive au nord au Bangui ou à Gemena, il faut encore amener ces matériaux-là jusqu'au site où il y a les travaux. Et pour y accéder souvent, ce sont des routes provinciales qui sont en très mauvais état et ça peut prendre des mois et des mois, surtout en saison de pluie, pour pouvoir accéder au site des chantiers pour transporter le matériel pour la construction des ponts et quelquefois même pour des routes quand c'est des travaux mécanisés.
Est-ce que vous avez l'impression que le travail est déjà fait et a débouché ou tenté de déboucher sur l'amélioration de la production agricole et animale?
C'est net. Ce sont des projets à impact rapide. Là où la route est terminée, on sent tout de suite l'impact sur les populations. D'abord, c'est une zone à potentiel agricole extrêmement important. Et comme vous le savez, le paysan, il est rationnel. S'il sait qu'il ne peut pas écouler sa production, il ne va pas produire de manière exponentielle. Il va juste produire pour son autoconsommation personnelle. Dès le moment où la route est libérée, c'est-à-dire qu'on peut la parcourir pour aller sur les ports, sur les marchés ou donner sur les routes nationales ou provinciales, on voit tout de suite que la production peut augmenter quelquefois de 30, de 40 au niveau des communautés locales le long des routes parce qu'ils peuvent maintenant écouler leur production, comme on l'a dit, vers les marchés et vers les ports.
Vous pensez que le projet PARSA va atteindre ses objectifs?
Oui, absolument. Nous avons eu dernièrement, il y a deux mois de cela, la revue à mi-parcours de la Banque mondiale. Avec le gouvernement, ils ont été sur le terrain pour voir les réalisations. Et je dois vous dire que, pour le moment, les appréciations sont assez positives. D'abord, pour terminer le projet en décembre 2015, c'est ce qu'on avait convenu avec le gouvernement. D'autre part, la façon dont les choses avancent aujourd'hui laisse présager qu'au rythme où vont ces activités, avec l'adhésion, il y a une adhésion formidable qui se fait sur le terrain, aussi bien avec les autorités locales que les populations bénéficiaires, où tout le monde commence à comprendre les objectifs de ce projet et tout le monde commence à comprendre que les routes sont à un pays ce que sont les artères et les veines au corps humain. La route elle-même est un élément de sécurité. La dernière fois, nous étions sur une route de 5 km que nous avons faite. 5 km. Tout le site est qui relie Molekbe à Kibomango. Avant, c'était envahi totalement par la forêt. Personne n'osait se déplacer avec tous les risques que vous avez d'attaques, de viols, etc. Aujourd'hui, les gens se promènent sur cette route de partir de Kibomango à Molekbe à toute heure de la journée, à vélo, en moto et à pied, et hommes et femmes. C'est devenu vraiment un élément de sécurité parce que la route est ouverte. La route, ça suppose qu'il y a une circulation qui se fait rapidement et qui se fait sans trop de contraintes. Et c'est ça qui est l'élément principal de sécurité.
Monsieur Moussa Diagana, merci.
Merci bien.
La Next, aux nouvelles en bref. D'abord, ce message du secrétaire général de l'ONU à l'occasion de la journée internationale de la lutte anti-mine, le 4 avril. Ban Ki-moon déclare notamment ceci. L'Organisation des Nations Unies est fière de l'aide qu'elle a déjà apportée à des millions de personnes dans les pays touchés par les mines. En cette journée internationale, engageons-nous à mobiliser les recettes, les partenaires et la volonté nécessaire à l'élimination des mines partout sur la planète. Et pour la RDC, le Centre Congolais de lutte anti-mine et le Service anti-mine des Nations Unies en RDC, UNMAC, ont organisé la célébration de cette journée la semaine dernière à Goma. Femmes et hommes, progressons ensemble. C'est un programme lancé le 1er avril dernier à Kinshasa par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagossi. Une initiative de l'Union européenne d'une valeur de 35 millions de dollars américains destinée à lutter contre les violences liées au genre en RDC. La mise en œuvre de ce programme sera assurée par l'UNICEF, la FAO et la coopération allemande GTZ. L'initiative vise notamment à rendre plus égalitaire l'éducation entre filles et garçons et à favoriser l'autonomisation des femmes. Restons dans le même registre, l'ONU Femmes a accompagné le 31 mars dernier à Kinshasa la ministre du Genre lors de la présentation du projet de loi portant code de la famille. Ce projet vise à réviser les dispositions discriminatoires à l'égard de la femme et de la jeune fille, notamment concernant l'autorisation maritale et l'âge de la majorité de la fille et du garçon. Par ailleurs, en marge de la clôture du mois de la femme, ONU Femmes a organisé le lundi 31 mars dernier, cette fois à Bukavu, un atelier d'échange avec le ministère provincial du Genre, l'Assemblée provinciale et les entreprises privées œuvrant dans la province du Sud Kivu.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a publié mercredi dernier son rapport sur les violations des droits de l'homme pour le mois de février 2014. Il ressort de ce rapport que les cas de violation des droits de l'homme sont en hausse. Abdoul Aziz Thioye, directeur adjoint du BCNUDH, est justement notre invité. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco sur les résultats de ce rapport.
Monsieur Abdoul Aziz Thioye, bonjour.
Bonjour.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo vient de publier un rapport sur l'état des droits de l'homme en RDC pour le mois de février. Quelles sont les grandes lignes? Qu'est-ce qu'on peut retenir
alors,
de ces rapports?
Les grandes lignes de ces rapports.
Oui.
Ce rapport donne les tendances mensuelles. En effet, au cours du mois de février 2014, nous avons enregistré 183 violations des droits de l'homme, ce qui représente une légère augmentation par rapport au mois de janvier 2014.
Donc, par rapport au mois de janvier, vous dites que c'est une augmentation de combien?
Au mois de janvier, le nombre de violations observées était de 173. Au mois de février, le nombre est de 183. Une légère augmentation qui a été enregistrée. Il a résulté de ces violations des droits de l'homme une augmentation d'environ, pour ce qui est des victimes, de 190%. Évidemment, une violation des droits de l'homme peut faire l'objet, peut entraîner plusieurs victimes. Et c'est le cas pour ce mois-ci, où nous avons noté environ 250 victimes. Ce qui explique à peu près l'augmentation que nous souffrons d'à peu près 190%.
Et à quoi est liée vraiment cette augmentation?
L'augmentation est liée à l'activité, évidemment, il y a des opérations conjointes sur le terrain actuellement. Vous savez que la FRDC est en train de mener des opérations sur le terrain contre...
Au Nord Kivu.
Au Nord Kivu principalement, oui. Et également la PNC au cours des mois et continue toujours à le faire et impliquée dans une opération de lutte contre la délinquance urbaine qui malheureusement fait des dommages collatéraux de façon très claire, ce qui fait qu'en réalité, on a noté les violations qui ont été documentées. Le nombre le plus important est attribué à la PNC. Donc
nous allons y arriver.
Voilà.
Alors est-ce qu'on peut connaître les provinces de la République démocratique
alors,
du Congo qui sont le plus concernées?
Les provinces les plus touchées sont le Nord Kivu, évidemment pour la raison que j'ai expliquée. La province orientale pour également en raison des activités dans le district de l'Ituri, mais également le Sud Kivu.
Oui, et pour les présumés auteurs, vous parlez avant tout de la police nationale. Avant, c'était plutôt les FARDC, mais alors, maintenant on parle de la police.
Alors,
pourquoi est-ce que vous mettez avant tout la police?
Alors, je dis qu'il y a une augmentation. Le pourcentage, le plus gros chiffre Le plus grand nombre des violations sont attribuées à la PNC. Et j'ai expliqué pourquoi. Évidemment, il y a une opération qui est en cours depuis quelques mois.
Oui, on parle de l'opération du COVID.
Voilà. Oui. Et du coup, qui évidemment, comme ça a été reconnu par le gouvernement et par les responsables de la police, il y a quelques dérapages. Donc du coup, ça fait par ça, augmente cette opération-là et les manquements qui ont été notés entraînent l'augmentation, évidemment, du nombre de violations attribuées à la police nationale.
Monsieur Abdoulaziz, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la nature des violations des droits de l'homme? Ça consiste notamment à quoi?
Alors, les violations les plus courantes sont les atteintes au droit à l'intégrité physique, suivies des atteintes au droit à la liberté et à la sécurité, des restrictions de mouvement, des arrestations et autres. Et également des atteintes au droit à la propriété, ainsi que des atteintes au droit à la vie.
Oui, des atteintes au droit à la propriété. Vous pouvez expliquer aux auditeurs qui nous suivent.
Alors, les atteintes au droit à la propriété concernent pour beaucoup les pillages qui sont le fait souvent des groupes armés et de certaines unités de la FARDC dans le cadre des opérations sur le terrain.
Les pillages des maisons, les incendies.
Voilà, des pillages de maisons, des incendies, des destructions de propriétés. Ce sont principalement les éléments qui constituent les atteintes que nous avons pu dénombrer.
Oui, monsieur Abdoulaziz, pour terminer, parlons un peu du procès de Minova. Où sont impliqués les présumés auteurs de violations des droits de l'homme dans cette partie du pays. Je sais que récemment, le bureau conjoint et bien d'autres, la justice congolaise, bien sûr, se sont penchés et les procès continuent. On en était, je crois, à l'étape des plaidoiries des avocats des victimes. Mmh. Et la grande critique qu'on fait au bureau conjoint, donc à la MONUSCO, c'est qu'on a remarqué que la MONUSCO a abandonné un tout petit peu les victimes. Qu'est-ce que vous en dites?
Je crois que ceux qui disent cela n'assistent pas au procès ou n'ont pas suivi toutes les étapes du procès. Je pense qu'il faut que nous soyons très clairs. Si la Cour a pu se déplacer sur le terrain et faire ses devoirs d'instruction, ou faire rencontrer les témoins et les victimes pour pouvoir les auditionner, c'est avec le soutien de la MONUSCO. Et quand je dis MONUSCO, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est impliqué, ainsi que d'autres partenaires. Nous avons facilité, avec évidemment, oui, une grande coopération de la Cour, facilité la comparution des victimes et des témoins dans le cadre de la préparation de ce procès-là. La Cour s'est déportée sur le terrain. Il fallait déplacer les victimes et leurs témoins et assurer leur sécurité. Et tous ces aspects-là ont été facilités par la MONUSCO. En termes de transport, en termes de procédures de protection, de mesures de protection pour les victimes contre de potentielles intimidations ou de menaces, tout ça a été fait. Et ça a connu une très grande réussite et qui permet aujourd'hui que les plaidoiries puisse commencer cette semaine au niveau de Goma.
Oui, on a connu beaucoup plus une augmentation des violations des droits de l'homme. Qu'est-ce que nous pouvons attendre du bureau conjoint dans le sens de l'amélioration de la situation sur le terrain?
En termes d'amélioration, ce n'est pas au bureau conjoint d'améliorer la situation. Donc, notre travail de reporting, de monitoring et de reporting...
Vous appuyez.
Voilà. Consiste à renforcer les capacités du gouvernement. Mettre des informations à la disposition des autorités, leur permettre de pouvoir agir pour corriger les manquements qui sont constatés. Donc c'est ça le but de notre travail en réalité. Donc nous sommes en étroite relation avec les autorités, tant au niveau national qu'au niveau des provinces, de façon régulière, présenter les résultats de nos enquêtes, de nos investigations, afin de leur donner des éléments de pouvoir prendre les dispositions requises. Et de ce point de vue-là, comme on l'a mentionné pour le mois de février, il y a eu des mesures qui ont été prises. Ça aussi, il est important de le mentionner.
Lesquelles?
Voilà, il y a eu, selon les informations que nous avons aussi également collectées, 3 agents de la PNC et 14 militaires de la FARDC ont été condamnés pour des actes constitutifs de violation des droits de l'homme.
Par les tribunaux.
Par les tribunaux.
Et Monsieur Abdoulaziz, je vous remercie.
Notre nouvelle de province parle du redéploiement d'une partie du personnel de la MONUSCO de l'ouest vers l'est du pays. Un redéploiement qui a commencé depuis maintenant un mois. Il se matérialise par l'arrivée à Goma de plus de 200 fonctionnaires internationaux. Quelles peuvent être les implications de ce mouvement sur le plan socio-économique? Les réponses dans ce reportage de Gabriel Ouaménia.
Cette reconfiguration de la MONUSCO avec Goma comme l'épicentre de toutes les activités de la mission aura certainement un impact positif sur le secteur socio-professionnel. C'est du moins ce qu'affirme le secrétaire exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Congo, INTC, Nord Kivu. Pour Kambale Luanga Tchernozem, les signaux pour résorber tant soit peu les chômages sont déjà visibles.
Il y aura d'abord l'emploi. Et quand il y aura l'emploi, les salaires que ces gens vont toucher auront l'impact sur le terrain.
Les économistes abondent aussi dans le même sens. Ils pensent que la masse monétaire en circulation va ipso facto augmenter, même au bénéfice du commerce informel. Notons toutefois que cette reconfiguration a des retombées aussi négatives sur d'autres secteurs de la vie courante. C'est notamment le domaine de l'hôtellerie et celui du logement où les prix ont légèrement grimpé. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Karine Dokosidati, je suis célibataire. J'ai fait le journalisme à la faculté de lettres à l'université de Lubumbashi, au département des sciences de l'information et de la communication. J'ai fait mon cycle primaire au lycée Tundélé et puis je suis allée décrocher mon diplôme d'état à l'Institut Njanja de la SNCC. Parlons de mes fonctions au sein de l'agence. Je suis journaliste à la radio Capi, ça va faire bientôt une année. Au quotidien, je fais beaucoup de choses, il faut le dire. Je commence d'abord par proposer des sujets de reportage, des sujets qui peuvent être traités comme dossier du jour, qui peuvent être traités comme magazine, des sujets même d'information. Ces sujets que nous passons de fois dans notre décrochage régional ou alors des sujets qu'on envoie à l'antenne nationale à Kinshasa, pas sous forme de son ou de papier ou d'enrobé dans des reportages. Au-delà de tout ceci, je cherche des personnes interviewées, notamment des ONG qui ont fait quelque chose de consistant pour la population. Alors on le reçoit comme invité, je rencontre des femmes que j'interviewe pour certaines rubriques au niveau national. Je cherche des cuisiniers, des femmes de la société qui me parlent de certaines recettes à proposer aussi à l'antenne nationale. J'ai eu un parcours, bien évidemment, il faut dire que j'ai été à la RTCL, Radio Télévision Canal Lubumbashi, donc c'est là que j'ai fait mes premiers pas en journalisme. Après la RTCL, je suis allée à la radio-télévision Nyota. Il faut dire que là que j'ai fait le gros de mon parcours, hein, qui est passé environ 5 ans et demi. À Nyota, j'ai commencé aussi à la direction des programmes. J'ai animé certaines émissions. J'ai présenté une autre émission du Monde Vert. Je parlais des questions touchant à l'environnement. Et là, ça m'a permis de connaître un nouveau monde. J'ai fait beaucoup de voyages, notamment avec l'UNOP, le PIB, la Banque mondiale. Et ça m'a permis d'adhérer à un autre réseau qu'on appelle aujourd'hui le RCN, le réseau pour les communicateurs de l'environnement. Et de là, j'ai été affectée au desk information. Enfin, j'ai des reporters, présentateurs. Et c'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à ce qu'on a créé la direction des enquêtes et magazines. J'ai été affectée là-bas. J'y ai travaillé pendant une année. C'était quand même émouvant, hein, de faire un grand reportage sur 30 minutes, 5 minutes. C'était quand même un travail qui demandait beaucoup d'énergie. Comment je gère mon temps libre? C'est une question quand même complexe. Le temps libre, il faut dire qu'on n'en a pas assez, on n'en a pas beaucoup. Le travail, je viens au boulot à 8h30, c'est vrai, je prends ma pause vers midi et je quitte vers 17h30, 18h, surtout si je suis à l'animation d'antenne, donc à la présentation de notre décrochage, ça veut dire qu'on ne quitte pas avant 18h. Le peu de temps qu'on a en week-end, si on n'est pas à la permanence, parce qu'il faut dire que les week-ends, deux fois, je travaille en permanence, pour gérer ce temps, je regarde vraiment les priorités, qu'est-ce que je dois faire. Donner du temps à la famille, donner du temps aux amis, même si je n'en ai pas beaucoup, il faut le dire. Bon, prendre soin de soi-même, quand le week-end arrive très vite, on se dit, ouf, voilà le week-end, mais après un jour, c'est déjà lundi. Mes préférences, parlons du sport, j'aime deux disciplines, j'aime le football et le basketball. Le basket parce que quand j'étais au lycée, je jouais au basket pour le compte. sport de l'école, donc on avait une équipe à l'école. Ma préférence pour le football part d'une équipe que j'aime bien, le FC Barcelone. Parlons de mes projets d'avenir. Je voudrais un jour devenir mère, femme au foyer et travailleuse à la fois. Faire une belle petite famille chaude avec deux petites filles et un très beau garçon. Dieu prétendit, ça va arriver très bientôt. Après l'agence, je voudrais m'investir vraiment à travailler dans le secteur libéral, être chef de moi-même. Il faut dire que je n'ai pas de préférence pour la musique. Tout ce qui rime, tout ce qui est bien travaillé, tout ce qui est agréable à l'oreille, à mon oreille, je pense que c'est bon. Parlons de mes mets préférés. En tout cas, il faut dire d'abord que j'aime le sorbet. Je peux manger le sorbet du premier au 30 sans problème. J'en raffole. Plus loin d'ailleurs, j'ai toujours dit, même le sorbet qu'on fait au deuil, là, qu'on prépare au deuil, moi, il n'y a pas de problème. Même si c'est fait négligemment, comment j'aime bien, je peux l'accompagner avec du poisson. Voilà.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Je suis Jean-Pierre Kaimé pour RTJA FM. Et dans vos propos, vous n'avez pas fait allusion à la présence des troupes de UPDF à la frontière avec la RDC. Ce matin, certaines sources confirment que ces militaires ougandais occuperaient les collines de Sarambwe à Rutshuru. Vous n'en parlez pas parce que c'était un événement où vous n'avez pas d'informations.
Écoutez maintenant la réponse du général Carlos dos Santos Cruz, commandant des forces de la MONUSCO.
The presence of the UPDF in...
La présence des forces armées ougandaises à côté de la frontière, nous avons eu écho de cela aussi dans la presse ce matin, mais il n'y a aucune évidence comme quoi la présence des soldats ougandais est bien constatée au Congo. C'est dans une zone où la frontière n'est pas très clairement définie. Une seule chose est sûre, c'est que aussi bien la MONUSCO que les FRDC vont s'activer à vérifier cette information, mais pour le moment, nous n'avons aucune preuve palpable là-dessus.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Une date, deux événements pour la semaine qui commence. Il s'agit de la date du 7 avril, c'est déjà demain, lundi. C'est la journée mondiale de la santé et la journée internationale de la réflexion sur le génocide au Rwanda. C'est la fin de ce magazine présenté par Mila Kimuli avec l'assistance technique du côté de la régie de Jean-Noël Nkondo. Cette émission a été supervisée par Nicole Ngaka, coordonnée par Jean-Pierre Elali Coco, Honoré Missenga était au reportage. Vous pouvez retrouver le magazine sur www.radiocapi.net. Trois manières de nous faire parvenir vos suggestions, vos questions ou vos remarques. Un SMS ou un appel à notre numéro, le 082 30 76 630, 082 30 76 630. Un mail à notre adresse maguen@radiocapi.net ou encore un commentaire sous l'émission sur notre site www.radiocapi.net. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente journée dominicale à tous. Au revoir.